Alors tu veux faire danseur?
And push and turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et voilà, bienvenue une nouvelle semaine avec cette émission dédiée au chant chorégraphique. Aujourd'hui, on revient avec notre invité William Petit qui nous donne l'opportunité de venir partager son expérience de longue date et très intéressante. On va parler maintenant de l'écriture, ta relation avec l'écriture chorégraphique et de comment tu élabore tes spectacles, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après, et sur quel type de surface, sur quel type d'écriture tu travailles pour après le mettre au plateau.
Bonjour, je suis absolument heureux et ravi de revenir. L'écriture, elle commence avec des images. Elle commence avec des images, des sensations, en partant, comme je le disais la dernière fois, du rapport aux autres. Et elle va se formaliser, se proposer de manière très claire par des tracés, des dessins, mais surtout des tracés. Donc des tracés dans un espace, d'un espace que j'imagine au démarrage en fait de chaque projet, quelle que soit la nature du projet, que ce soit in situ, dans un théâtre performatif. Et ces tracés vont petit à petit me permettre de créer une dramaturgie en fait de la proposition qui va être faite au public. Pareil, qu'elle soit avec 1, 2, 6, 10, plus d'interprètes. Et ça part toujours et ça part aussi très souvent, ça commence très souvent avec un texte et de la musique. Et donc la musique et le texte m'accompagnent dans ces tracés que je fais dans des carnets de notes, quels que soient les carnets en question. Et quand je reviens quand j'arrive à la fin d'un projet, que je reviens sur les premiers dessins, en fait, ils sont là.
Ils sont là.
Et ils sont restés. Ils sont restés là. Ils sont toujours là. Ce qui a pu se modifier, c'est à l'intérieur du tracé. C'est pour ça que je t'ai proposé Fairos, parce que c'est vrai que quand j'ai rencontré le Moyen-Orient, j'ai capté aussi le lien que je pouvais avoir avec cette musique-là, dans le sens de... C'est aussi pour ça que tu me parlais de la première pièce, une des premières pièces que j'ai fait, où je t'ai dit oui, Così fan tutte de Mozart, c'est-à-dire comment en fait tu traces, et en partant de ce tracé, tu élabores après des arborescences, et comment ces arborescences vont nourrir en fait le tracé premier que tu as, c'est-à-dire ça ne fait pas dévier le chemin, mais ça lui offre des arborescences, des possibles... voilà, aller dans la forêt, repartir du côté du désert avant de reprendre le chemin qui t'amène de Tijuana à San Paolo, par exemple.
C'est très intéressant ce qu'on voit dans le spectacle et la relation qui existe entre cette surface qui accueille les germes d'une idée et ce qu'on voit comme résultat après. Je trouve qu'il y a énormément de latence entre les deux. Et ce qui est intéressant du chant chorégraphique, c'est justement de voir comment chaque chorégraphe va se relier justement à ses besoins, ses besoins d'une dépense graphique qui va nourrir l'idée. Et après, au plateau, on voit qu'un un morceau des, vraiment de ce qu'on a imaginé.
Oui. Oui. Juste pour appuyer, continuer. Dans ces tracés intervient aussi pour moi des notions d'énergie. Dans la mesure où, à un moment, je me suis dit, ah oui, il faut que je trouve une façon d'écrire au papier, au-delà du tracé, le rapport à la personne pour qui est destiné ce tracé.
C'est ça aussi, tu travailles sur l'autre.
C'est-à-dire que quand au fil du temps, ce qui s'est affiné, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire l'énergie dans le tracé, comment faire apparaître dans le tracé l'énergie de l'autre dont tu as envie de l'autre au développement chorégraphique d'une écriture. Voilà. Et ça a pris forme parfois à travers l'utilisation de la couleur. Quand j'étais sur des pièces de groupe plus importantes et où, au bout d'un moment, je regardais, je me disais, mais je ne vois plus rien du tout. Et quand il y a 7 interprètes, et j'ai fait, oh, ok, peut-être on va utiliser un rapport aux couleurs qui pourrait permettre. Et en fait, non. C'était plutôt d'arriver vraiment à affiner encore, à creuser encore ce rapport à une écriture au papier qui permette. Parce que l'idée, c'était que je me disais, à chaque fois, je me suis dit, il faut que ce soit réalisable. Il faut que ce soit lu, il faut que ce soit possiblement lu et réalisable. Et si je ne suis pas là, il faudrait que peut-être quelqu'un puisse le lire et le réaliser.
Puisse l'interpréter, oui. Et il y a une autre place qui est importante dans ton travail, c'est la lumière. Tu m'as raconté que dans plusieurs projets, justement, cette écriture de ce qui tient à voir avec la lumière prenait une place, avait une considération spéciale.
Alors là encore, et encore une fois, j'ai eu l'opportunité, la chance de rencontrer de très belles personnes créatrices, créateurs de lumière dans les années 80, quand moi j'ai commencé comme interprète et qu'après j'ai, au début des années 90, comme chorégraphe, et des personnes qui ont été marquantes pour le rapport à la lumière tel qu'il existe encore dans la danse, et surtout marquant dans la liberté qu'il s'octroyait de ce rapport à réaliser une dramaturgie de la lumière pour, avec, au profit, en support, en soutien, après, avec tous les mots qui conviennent le mieux à chaque démarche qui m'a réellement donné signe et envie de me poser toutes les questions de, oui, quel est le rapport dramaturgique qu'on peut instaurer, quel est le rapport plastique qu'on peut instaurer entre la danse, qui est quand même d'emblée un élément plastique évident, et la lumière, qui en est un autre, et comment arriver à frotter, pas seulement accompagner, mais frotter, créer des espaces, voir, créer des sensations. Je me rappelle d'un solo où la lumière passait d'une perception qui serait quand tu entres dans une chambre, dans une pièce complètement noire, et qu'en fait tu décèles petit à petit un peu de lumière, et que finalement cette possible perception de lumière va te faire découvrir la pièce tel que ton cerveau va te la proposer, tel que ton cerveau va créer l'incidence ou l'imaginaire de ce qu'est cette pièce-là. Ça aussi, c'est un aspect qui me passionne dans la lumière, c'est qu'est-ce que ça fait apparaître, qu'est-ce que ça fait disparaître, comment tu fais apparaître, comment tu fais disparaître, et quelle sensation, quelle perception visuelle et donc olfactive et donc d'imaginaire tu arrives à créer. Donc oui, la lumière, c'est une place pour moi, dès le départ, extrêmement importante, qui est toujours là.
qui est toujours là, ouais. C'est d'autres dimensions que le mouvement. Il y a aussi ça, il y a aussi cette dimension.
Dans la dernière performance que j'ai vue de Diane Ashby, magnifique jeune chorégraphe canadienne au Festival de Montpellier Danse, la lumière est excessivement simple, mais elle amène cette dramaturgie, elle amène une temporalité, elle amène un espace dans lequel on respire d'une certaine façon parce qu'elle est présente de cette manière-là. Et ça, moi, à chaque fois, je trouve ça génial. Je suis pas très intéressé par l'effet, et je suis pas non plus très intéressé par le fait qu'on dise économiquement, il faut devenir de plus en plus efficace avec la lumière pour que les spectacles tournent. Je pense que c'est de la connerie. Je pense qu'on a beaucoup de choses à inventer encore avec la lumière, oui. Y compris avec des outils technologiques nouveaux. Qu'on peut inventer avec ces outils technologiques nouveaux si on les a. C'est-à-dire qu'il faut arrêter aussi de raconter des conneries et de dire qu'avec 3 projecteurs, LED, machin, on peut faire quelque chose. C'est pas vrai. Il faut... Ah, si, on peut faire. Mais alors, tout le monde va faire avec 3 LED. Je veux dire, non. Donc, c'est... Mais il y a une capacité de... C'est questionner aussi l'aspect visuel. C'est-à-dire, par exemple, le délai qui existe en musique. Mm-hmm. Comment tu peux le travailler entre le corps en mouvement et la lumière. Comment tu peux installer un délai visuel au plateau? Comment tes yeux peuvent percevoir un délai?
Un délai, tu veux dire?
Un délai. Si là, par exemple, on nous met un delay, on va avoir delay. Voilà. Comment ça, tu le perçois? Donc, ça a été abordé dans la danse contemporaine abstraite, slow motion, nanana, c'est-à-dire par des formulations qui permettraient que le mouvement soit, tu vois. Mais comment tu peux arriver par la lumière à créer ce délai et à créer du volume, de l'espace autre.
Autre. On en avait évoqué dans nos conversations hors microphone une période où tes carnets ont été brûlés. Peux-tu nous raconter un peu cette anecdote qui est importante parce que ça, voilà, c'est quand même très dur de se séparer de façon obligatoire de quelque chose qui est de l'ordre de l'intime mais qui touche à la création.
C'est très... La première fois, c'est des carnets de notes, des archives de pièces, des archives photographiques aussi, m'ont été volés. Ça, c'est une première étape. Une deuxième fois, c'est... Une deuxième étape a été... dans une malle, des archives, des notes sont parties en fumée dans un incendie, dans un incendie de l'endroit où je vivais à ce moment-là. Et la première fois, ça a été une perte sauvage. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation absolument folle, quand on y repense après, de perdre pied. Après ça, aussi des choix de vie que j'ai aujourd'hui et depuis un certain temps de nomadisme, n'a plus eu l'impact que ça a pu avoir pour la première fois. Et aussi parce que la première fois, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des amis photographes avec qui j'en parlais et qui, en fait, me disaient « Mais nous, on perd régulièrement de la fragilité des outils avec lesquels ils travaillaient, avec lesquels ils faisaient le choix de travailler, pas en numérique, où, en fait, effectivement, ils perdaient des matières. » Et ça m'a donné l'occasion de réaliser que, oui, il y avait des artistes qui aussi faisaient le choix de perdre des matières. Et dont un artiste plasticien qui travaille lui sur la juste sur la combustion, et je trouvais ça génial parce que ça fait tout à fait référence à ça, qui est en fait la construction d'un mur qui se détruit au fil du temps.
On va faire une toute courte pause. On a trop envie d'entendre encore quelques minutes. On revient avec vous dans quelques instants. Avec votre émission Mon Chaussure, toujours avec William Petit, qui va nous parler de sa conception de nomade, de comment il vit sa maison, et de pourquoi peut-être, ou comment, et de la signification que ça a pour toi dans ta vie réelle, quotidienne, et aussi j'imagine que ça touche, parce que c'est la danse, ça touche aussi cette vie qui est un peu plus légère, je permettrait de dire moins ancré, non, peut-être.
J'ai fait le choix à un moment d'être nomade. J'ai fait le choix de ne plus avoir d'endroit, de pas avoir de maison, de pas avoir d'endroit spécifique où j'habite, où je vis de manière régulière. J'ai fait ce choix à un moment où je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce délire, tu vas être dans la pensée absolue de réunir tout ce qu'il faut pour que cet endroit-là que tu as trouvé au-dessus du Père-Lachaise devienne je ne sais pas trop quoi. Et ça m'a paru tellement absurde par rapport à tout ce que, aussi, je vivais artistiquement à ce moment-là, et à la richesse de toutes les rencontres que je pouvais avoir à ce moment-là. J'ai fait ce choix en rencontrant un gars qui m'a dit, à qui je dis, bah, tu n'aurais pas envie de partager ça, et qui m'a dit, ouais. Ça fait partie du choix, quand même, au départ. C'est de pouvoir le partager. Et depuis, je le vis très agréablement. Avec toutes les questions que j'ai découvertes au fil du temps du nomadisme. Donc, qui ne sont pas celles qui sont d'autres questions. Qui sont vraiment les questions du nomadisme, qui sont... qu'est-ce qui te fait revenir à un endroit éventuellement, comment tu le nommes, est-ce que tu le nommes, qu'est-ce qui fait que tu préfères être plutôt au bord d'un espace marin, c'est quoi du coup cet espace marin, et de nomadisme en nomadisme, des temporalités que ça crée. Une chose dont qu'on a évoqué ensemble, de l'aspect de l'attachement au fil du temps au vaste, à sortir des espaces européens parce qu'ils me proposent autre chose dans la dimension qu'ils impactent. Et aussi le fait que je trouve, enfin, je n'ai plus aucun rapport aux objets, par exemple, et que je suis simplement heureux de ça.
De retrouver les espaces,
pas
les
plus
personnes.
Que ça. Non, mais je veux dire, par là, il n'y a pas de. Je n'ai aucune revendication particulière pour quiconque, mais je dis simplement, moi, j'ai trouvé l'endroit où ça pouvait se faire de manière la plus joyeuse possible. Évidemment, elle a un rapport avec la danse.
Oui,
c'est-à-dire
ce que
d'entrer dans ce métier-là très tôt, quand j'ai 18 ans, oui, forge les bases, en fait, forge tu vois, la force et l'envie de ça. Mais alors après ça, c'est quand même le bonheur pour moi d'être nomade et de continuer à l'être.
Oui, je trouve une belle consolidation, parce que c'est vrai que les artistes chorégraphiques doivent beaucoup se déplacer, être toujours en mouvance. Et je pense que tu as bien consolidé deux choses, c'est-à-dire les demandes d'un métier plus un besoin de sortie de ces modèles sédentaires dans lesquels nous vivons la plupart d'entre nous. Et je trouve que dans le monde de la danse, j'ai beaucoup rencontré des personnes qui justement tiennent des styles de vie qui sont alternatifs et qui nous permettent de nous poser d'autres questions, de peut-être de trouver l'instabilité dans certaines choses que pour nous c'est donné, c'est comme ça, on ne se pose pas de questions. Et je trouve que...
Oui et non. Enfin oui et non, c'est-à-dire j'ai envie de rebondir en disant, moi j'ai aussi rencontré des personnes magnifiques qui sont non pas sédentaires, parce qu'en fait c'est peut-être ça le truc, mais qui sont aptes au voyage à un endroit précis, géographique. C'est... Et qui sont danseurs et chorégraphes, danseuses et chorégraphes, et qui sont des personnes absolument formidables, qui, elles, ont besoin d'avoir un jardin.
Un point fixe.
Qui est l'endroit où elles vont se retrouver. Et d'autres qui n'en ont pas besoin. Je tiens ça parce que je suis souvent, évidemment, amené dans plein d'échanges à des trucs de ah bah oui, mais toi tu conçois et donc l'autre non. Je pense au Mexique, par exemple. Et quand je pense au Mexique et aux personnes que j'ai pu rencontrer au Mexique, et que je pense que Citlali, que j'ai rencontré à Tijuana, une partie de sa famille vit à Mexico, une autre partie de sa famille vit au Chiapas, et qui se retrouve éventuellement une fois tous les 4 ans, parce que l'espace est tellement grand que les relations et les modes relationnels sont différents, je crois qu'en fait, moi, ça m'a nourri par rapport au nomadisme que je pratique maintenant, parce que ça a changé la formulation de la temporalité de la rencontre ou des rencontres, notamment récurrentes, que tu peux avoir avec ta famille, avec tes amis. Les Finlandais du Nord, qui à un moment sont bloqués par la glace et la neige pendant je ne sais pas combien de mois, et qui donc ne vont pas du tout avoir le même rapport de relation aux autres qu'on peut avoir à Montpellier. Où, bon, l'hiver, effectivement, ça va être un peu plus difficile, il fait un peu plus froid, mais enfin, un jour il pleut, et donc tu dis, oh là là. Mais là, d'un seul coup, c'est vraiment des temporalités où pendant 4 mois,
oui, c'est plus long.
Les gens ne vont pas se retrouver. Et en fait, je parle de ça par rapport au nomadisme, parce que le nomadisme que je pratique, il a été aussi teinté de ces différentes expériences et nourri de ces différentes expériences, comme de ces jardins que peuvent avoir certains et dont ils ont besoin pour nous faire découvrir un univers qui part de ce jardin-là.
Mmh. J'ai toujours été admiratif des oiseaux qui font des nids à chaque fois. Donc, il y a quelque chose qui détruit les nids. Et l'oiseau, sans, juste avec résignation, il recommence. Et je trouve hyper fort cette image de cet oiseau qui dit « Bon, ça fait 2 semaines que je construis les nids. Un coup de vent m'a détruit, bah, je recommence. » Et pour moi, le nomadisme représente ça aussi. Ça a une certaine capacité, un effort que tout le monde n'est pas prêt à donner. C'est pas simple, c'est quelque chose qui te fait sortir quand même de beaucoup des normes, beaucoup de choses qui sont établies dans la société, et que prendre cette autre vie, des modes alternatifs, ça demande quand même une détermination. Ça demande
une détermination, une énergie. Oui, après, il faut que... enfin, elle te correspond. Quand tu la vis, elle te correspond. Et quand elle te correspond, elle va vraiment dans le sens du joyeux, de l'expérience que tu es en train de vivre. Ça. Et en même temps, quand tu prends l'exemple du nid de l'oiseau, c'est l'image qui, toi, te vient et voilà. Je la respecte, mais moi, je n'ai pas du tout cette sensation-là. Je ne vais pas du tout construire un nid à chaque fois que je me pose quelque part. Je sors les affaires de ma valise, je les déballe et je les répartis dans la pièce ou dans les pièces dont je peux profiter à ce moment-là. Et à un moment donné, ces affaires que j'ai déballées vont retourner dans la valise qui va aller un peu plus loin, et elles vont à nouveau se répandre dans un autre endroit d'une façon différente. Et voilà, mais rien ne détruit. C'est-à-dire, attention, il n'y a pas d'énergie particulière à mettre dans le fait de bâtir, rebâtir, rebâtir, rebâtir. Non, rien ne détruit, c'est une continuité. Donc tu es dans une continuité de changement. Après, je suis d'accord avec toi sur l'endroit du choix, de l'énergie, de te déplacer par rapport à socialement ce qui est correct, pas correct, ou
demander,
tu vois, voilà. Ou effectivement, il y a des soirs où je vais dans des... Si je me retrouve dans une soirée, j'ai l'impression d'être le poisson exotique du lot, tu vois, alors que je n'ai vraiment pas forcément quelque chose d'exotique, particulièrement.
Non.
Mais je suis le poisson exotique parce que, par exemple, la plus-value ne m'intéresse pas. De fait, je n'ai pas de propriété, je n'ai pas d'endroit, je n'ai pas de plus-value.
Oui. Ça fait penser beaucoup à une personne que je connais, que j'admire, c'est ma tante. Elle a une vie, c'est très sédentaire, mais il n'a rien à voir avec ce qu'on parle. Mais c'est pareil, c'est un poisson étrange qui a fait des choix de sa vie et qui montre une... Pour moi, c'est important de voir ce type d'autres façons d'exister, parce que ça ouvre des possibilités à ceux qui vont venir. Et...
Ah oui, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord que de partager d'autres façons d'être, c'est mais plus que nécessaire. Oui.
Peut-être on va parler de. C'est associé. Je ne sais pas si tu luttes contre quelque chose, si tu as des dispositions, des suggestions, des mouvements qui te vient à la tête comme ça, des batailles que tu mènes, ou pas.
J'aime bien me faufiler dans les brèches que nous proposent les systèmes avec lesquels on doit cohabiter, quel que soit le mode de cohabitation qu'on peut chacun avoir. J'aime bien trouver les brèches et dire et arriver à dire et à faire vivre et à vivre ces brèches-là comme étant des potentiels d'autres manières de tisser du lien, d'avoir du vécu. Je trouve que les endroits qu'on nous propose peuvent être beaucoup plus partagés.
Bon, le temps est court, c'est fini cette fois-ci, cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être là et je vous souhaite des bons mouvements pour vos vies.
Merci beaucoup.
Merci William. À bientôt.
Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people. Dance.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit! On se tourne vers le miroir, allez!